Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Pierre Rondeau, Anne-Sophie Saint-Père et Robert Sebag avec vous au 32-16 pour agir à notre prochain débat sur le gouvernement qui envisage de déployer des radars de covoiturage l'an prochain. Que sont ces radars? Ce sont des radars pour voir si vous êtes seul ou accompagné dans votre voiture. Est-ce que ça va trop loin? On attend vos réactions sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On a enfin les tarifs des Jeux Olympiques. Voilà, combien elles vont coûter ces places, on saura tout avec Stéphane. À 14h, le télétravail qui perd du terrain en France. Moins de 6% des offres d'emploi mentionnent désormais la possibilité de travailler à domicile. Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce que c'est le début de la fin pour le télétravail? 14h30, RMC s'engage pour vous avec une histoire incroyable, celle d'un auditeur dont la voiture a été emboutie lors d'un braquage et qui n'arrive pas à se faire indemniser, parce que bien sûr il n'a pas pu faire de constat du braquage. Donc évidemment on essaiera de l'aider bien sûr avec Amélie Rosic, et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC, RMC Story. On va poursuivre Estelle Midi avec la mauvaise nouvelle du jour, et elle concerne les automobilistes, puisqu'à partir de l'année prochaine, le gouvernement envisage de mettre en place de nombreux radars de covoiturage. Mais qu'est-ce donc, Rémi?
Mais la cabine est équipée de deux caméras qui sont situées à hauteur du pare-brise du conducteur. La première caméra sert à relever la plaque d'immatriculation du véhicule, la seconde à prendre des photos. Et ce n'est pas tout, l'appareil est également capable de différencier un véhicule traditionnel d'un taxi ou d'un véhicule critère zéro et d'identifier les températures corporelles un véhicule. Si, donc de détecter le nombre de passagers qui le composent. Car depuis 2 ans, sur certains grands axes routiers, vous les avez peut-être vus, il y a ces panneaux lumineux avec un losange blanc qui signale un grand changement sur nos routes. J'en ai déjà vu, je savais pas à quoi ça correspondait. La voie est. Donc, lorsque vous avez ce panneau lumineux avec un losange blanc qui est allumé sur la voie la plus à gauche, ça veut dire que la voie est uniquement réservée au covoiturage ainsi qu'au transport en commun et aux véhicules critères zéro. C'est le cas du dimanche soir au vendredi soir, quand le panneau est allumé. Donc, si vous êtes seul au volant, interdiction d'emprunter cette voie. À défaut, c'est une amende de 135 €.
Ah oui.
C'est pour cela que ces radars vont progressivement être déployés. Il y en a déjà 5 aujourd'hui en France, mais le gouvernement, donc tu l'as dit, envisage de les multiplier dès l'année prochaine.
Est-ce que ça va trop loin, ces radars de covoiturage? Évidemment, nous aurons Pierre Chasseret avec nous dans un instant. Mais d'abord, je commence avec vous, Pierre Rondeau.
Moi, qui n'ai pas le permis de conduire, qui suis difficilement en train de le passer, on va beaucoup trop loin. Moi, je suis partisan et fervent défenseur de l'intelligence collective et de l'intelligence humaine. Si les gens ont pris conscience de l'augmentation du coût de l'électricité, du coût du pétrole, du coût de l'énergie, ils sont passés d'eux-mêmes, sans qu'on leur impose, aux 110 km/h. On doit aussi passer par l'initiative personnelle et individuelle.
Les trois quarts des gens sont seuls dans leur voiture.
Si derrière les gens se plaignent de trop dépenser, ils peuvent aussi aller justement vers le développement et la collaboration, la mutualisation des coûts, augmenter le covoiturage sans qu'il y ait une sanction derrière, sans qu'il y ait une obligation derrière. La contrainte est beaucoup plus compliquée à faire intégrer, à faire accepter que l'acceptation. Si on leur dit qu'effectivement...
C'est une mesure écologique, ça devrait
mesure écologique, mais moi je préfère l'intelligence collective et l'intelligence humaine, que les gens prennent conscience qu'il faut réduire sa vitesse sur la route et augmenter le covoiturage. On pourrait aussi faire des incitations au covoiturage.
Mais l'incitation, ça ne marche pas.
La sanction ne marche pas.
Bien sûr que ça marche.
Ça va provoquer de la détestation contre les logiques écologiques, contre les partisans de l'écologie, contre les militants écologiques, qu'il faut au contraire respecter. Oui, mais l'État qui va participer à la transition, à la lutte contre le dérèglement climatique, à favoriser la sobriété énergétique.
Si aujourd'hui tu dis juste aux gens, attention, c'est pas bien d'être seul dans ta voiture.
Non, mais regarde.
Tu t'en fous. Si t'es seul dans ta voiture et que tu prends la file de covoiturage alors qu'il y a des embouteillages monstrueux, tu auras 135 € d'amende.
Mais tout comme,
ils viendront à deux dans leur voiture, soit ils prendront
peur. Désolé, mais moi j'ai l'exemple en ville. En ville, les couleurs de bus sont interdits, personne ne l'utilise, il n'y a pas de radar.
Les gens respectent. Mais
il n'y a pas de radar.
Les gens les utilisent.
Oui, mais ça a tapé au début.
Il n'y a pas de radar.
Mais bien sûr qu'il y a des radars en ville.
Je n'ai pas le code.
Vous n'aurez jamais votre permis. Hein,
je n'ai pas le code. De toute façon,
bossez le code.
Ne me demandez pas mon avis. Moi, je vous dis simplement que sur les 130, les 130 et les 110 km/h, les gens sont allés vers ça, non pas par une contrainte, une obligation, mais par une réduction du coût de l'énergie, du coût du pétrole et du coût de l'essence. C'est pareil pour le covoiturage. Si on dépense moins d'argent, on peut aussi soutenir le covoiturage et inciter l'usage du covoiturage plutôt que de contraindre et de sanctionner. C'est tout. Moi, je suis contre la sanction.
Je vous le dis tout de suite.
Merci beaucoup de me soutenir dans cette
problématique. Alors, je ne me soutiens pas du tout. Robert Sebag, vous qui êtes très attaché à votre voiture,
oui,
je crois.
Oui, oui. Être avec son épouse, c'est du covoiturage?
Bah, bien sûr, vous êtes deux.
Oui, oui. Non, alors que normalement, le covoiturage, on
vous
en parlait surtout,
pour
si vous voulez, sur un certain nombre de mobilités. Alors, quelque part, c'est vrai que d'un point de vue écologique, moi je l'ai vu à l'étranger, ça, ce genre de voie, ça fonctionne assez bien, mais c'est bien délimité, on les voit bien. Parce qu'il y a une voie réservée, vous savez, le matin de Roissy, là, quand vous arrivez d'aéroport, mais personne ne la respecte.
Personne ne la respecte. Parce qu'il n'y a pas de radar.
Alors, ce côté-là. Après, moi, j'ai un côté égoïste. Je considère que la voiture, c'est un des derniers espaces de liberté. Et c'est vrai que souvent, moi, j'aime être dans ma voiture, parfois même un peu à l'arrêt, écouter la musique que j'ai envie d'écouter.
À l'arrêt, c'est très dangereux.
Il a son code et son permis. Hein.
Mais à l'arrêt, stationné. Non, mais c'est vrai que c'est un espace de liberté.
Vous passez du temps sur votre voiture stationnée à l'arrêt?
Ça m'arrive de m'arrêter. Ça m'arrive de m'arrêter, d'écouter. Parce que parfois, vous, chez vous, vous n'êtes pas tranquille, vous avez les enfants.
Vous
ne
voulez pas rentrer chez vous,
ça. C'est pas pareil. Après, si vous voulez.
Il n'y a pas de radar pour ça.
Non, après, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de liberté individuelle. Moi, j'ai pas envie d'être photographié avec
toi. Les photos sont floutées. Voilà. L'image est floutée.
Tu ne seras pas photographié.
Non, mais
puisque
on peut me dire, vous êtes avec quelqu'un, après, il peut y avoir des. Il faut qu'est-ce faire extrêmement.
Tu seras photographique si t'es seul.
Mais va pas sur la voie, tout simplement. Respecte la loi. Je veux dire, les gens qui se payent des radars, respectez la loi, c'est tout.
Je suis d'accord. Moi, je prends pas les couloirs d'autobus.
Bah voilà, donc tu seras pas lâché.
Un petit peu les choses.
Tu seras pas lâché.
Je pense que ça peut effectivement être utile en termes écologiques et en termes, si vous voulez, de citoyenneté par rapport à ce qu'on fait. Mais
c'est dingue que pour respecter la citoyenneté, il faut sanctionner. Moi, je trouve ça hallucinant. Respecter la loi.
Mais parce que
je suis un grand naïf, c'est tout. Un grand naïf qui suis persuadé que les gens, s'ils ne veulent pas se plaindre, respectent.
Non, mais il y a le côté un peu, on aime bien arnaquer un petit peu en France.
Bah voilà, mais après on se plaint derrière. Mais c'est ça,
l'esprit français. Oui, il y a un côté esprit français, un peu réfractaire.
Anne-Sophie, c'est la réalité.
C'est triste, hein, mais.
Est-ce que ces radars de covoiturage, ça peut justement inciter les gens à covoiturer ou même à abandonner leur voiture en se disant, mais là, c'est trop de contraintes?
Alors, moi, j'ai le permis, j'avais pas entendu parler de ce truc, je découvre ça, et en fait, ça me gêne à plein de points de vue. Alors, déjà, il y a les questions de contrôle par l'intelligence artificielle. Pour l'instant, les photos sont floutées, etc. Mais, quand même, je trouve ça dérangeant qu'on soit de plus en plus surveillé, caméra thermique, etc. Et puis après, le côté, le côté écologique me fait bien rire, parce qu'on va quoi, on va faire quoi? On va déployer plein de caméras, plein de radars. Donc ça, c'est des métaux, c'est de l'or, c'est du cuivre, c'est du cobalt.
C'est un coût
environnemental. Énorme. L'industrie minière, c'est une des plus polluantes au monde. Il faut absolument réduire la production d'objets électroniques, et là on va déployer des caméras. En plus, apparemment, il n'y a même pas de sanctions.
Construire une voiture ou construire un radar?
Alors, construire une voiture, mais là c'est voiture et radar. Pour un truc qui n'aura pas de sanctions. Donc, en fait, ça me paraît un peu marcher sur la tête. Je ne sais pas qui a obtenu ce marché pour vendre des radars, mais en tout cas, c'est certainement une bonne chose pour une entreprise. Mais par contre, pour l'environnement, je ne vois pas le bénéfice. Et je suis assez d'accord avec
ça. Si les gens ne prennent plus leur voiture.
Mais en fait, il faut qu'il y ait un travail de conviction là-dessus. Et puis, pour ne pas prendre la voiture, il faut aussi qu'il y ait des alternatives qui soient possibles et agréables. C'est-à-dire qu'il faut que les transports publics soient accessibles et confortables et pas chers. Donc, il y a des investissements à mettre là-dedans plutôt que déployer plein de caméras thermiques qui vont avoir un coût en minerai énorme. Alors que là, il faudrait vraiment réduire notre consommation de ce côté-là.
J'avais pas pensé au coût en minerai. Vous faites bien de.
Et je suis toujours là pour rappeler le coût en minerai.
Point qui est extrêmement important. On est avec Fabrice, qui nous appelle de Lyon et qui est artisan. Ça va pas être simple pour les artisans. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Fabrice, est-ce que vous êtes pour ces radars de covoiturage?
Non, pas particulièrement, parce que en fait, du coup, ça bloque la voie de gauche. Et étant donné que les gens se sont enroulés sur la voie.
Fabrice, on vous entend hyper mal. Fabrice, alors là, parlez plus près de votre combiné où il y a un truc là.
Je peux pas faire mieux.
Ah là, c'est parfait,
Bien. Du coup, oui, je vous disais, en fait, vu que les gens ne savent pas rouler sur la voie tout à droite, ils roulent sur la voie du milieu, et donc on peut pas les doubler sur la voie de gauche qui est réservée au covoiturage.
Donc, vous n'avez qu'à voyager à deux.
Mais dans mon camion, je peux pas.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, franchement, c'est pas qu'il y a personne sur ces voies. Mais
on vous entend mal, Fabrice.
Ouais, je. Voilà. Je pas. Mais ouais, la voie ne sert quasiment rien, quoi. Il n'y a pas grand monde dessus. Ça engloutit plus les autres voies que celle-ci, quoi. Enfin, que le bénéfice de celle-là, quoi.
Oui, et c'est vrai, il a raison, hein, Fabrice.
Moi, j'ai déjà... laisser les artisans, les entreprises, au moins. À part les critères zéro, là.
Bah, comment tu veux différencier un artisan
Non, mais une petite camionnette, enfin, je sais pas, on voit bien. Je veux dire, vous n'allez pas en vacances avec une camionnette.
Bah, non, mais tu vas pas autoriser.
C'est un véhicule professionnel.
Alors, bah, dans ces cas-là, moi, je vais te dire, je pars
les couleurs de bus pour les artisans.
Et les journalistes,
les avocats, les médecins.
Ça va pas, c'est impossible. Malheureusement, les artisans, ils devront être à deux dans leur camion, que je te dise.
Il a qu'à prendre un.
Et même le médecin qui est en visite.
Oui.
Peut-être que le médecin. Non, mais peut-être que le médecin, il y aura.
Et l'avocat.
Il y aura un passe droit.
L'avocat qui le week-end, il a.
Non,
quand même. Mais à Paris, ils ont quand même leur logo pour
faire une intervention.
Non, mais Paris, justement. Stationnement. Vous allez. Non, il y a aucun passe droit. Ou alors il faut envoyer.
Si vous avez un caducé.
Ah, mais oui.
Bien sûr que si.
Mais ne me dites pas. Vous permettez. Vous avez le caducé. Vous n'êtes pas. Vous avez.
Parce que le vôtre est périmé.
Avant, quand vous aviez ce qu'on appelait les aubergines, des personnes physiques qui venaient, effectivement.
Les aubergines.
Il y a eu les aubergines.
J'ai jamais entendu.
Les aubergines, c'est autre chose, Robert. Si.
Bon, je me trompe dans les légumes. Alors, vous les.
Oui, voilà. Ça n'a. Bon,
les pervenches.
C'est une fleur.
Quand elle voyait le caducé, spontanément, elle mettait pas de PV. Aujourd'hui, c'est des voitures, c'est tout électronique qui passe avec des radars. Elle voit pas le caducé.
Oui, mais il y a un listing, c'est inscrit, c'est enregistré, c'est numérisé.
Non, je t'assure que je sais pas, j'ai pas le code, je parle, j'ai rien. Il faut envoyer une lettre avec la photocopie de son caducé, expliquer, bon, etc. Peu importe.
Enfin, ce qui est vrai, là, ce que disait Fabrice, c'est que moi, j'ai déjà pris l'autoroute pour aller d'Orly à Paris, et vous voyez la voie de covoiturage, elle est vide. Bon, bah, bien sûr, comme il n'y avait pas de radar, j'ai pris la voie de covoiturage.
Mon Dieu.
Seule, évidemment. Bon, je m'en fous, je vais te dire. Mais c'est vrai que cette voie, elle était vide. Et tu te dis, à quoi ça sert, en fait? Surtout que personne ne comme ça.
Oui, mais voilà, on en est aussi à cet esprit franco-français, l'esprit franchouillard, de faire son rebelle, de faire son révolutionnaire.
S'il y avait une amende, j'aurais pas pris cette voie.
Oui, mais c'est ça. C'est qu'on va respecter de peur de la sanction. Moi, je préférais que ces gens prennent conscience.
Mais non, mais
ça. Ah oui, mais voilà, encore une fois, je le répète, je suis un grand naïf.
Quand tu auras des enfants, tu leur diras qu'il faut réviser, non pas pour la note, mais pour
l'éducation bienveillante.
Oui, bien sûr, mais t'as raison.
Et Pierre Chasseret va le contester certainement, mais même si c'est une réalité, c'est factuel. À chaque fois, oui, bon, on n'est pas d'accord sur le sujet, mais malheureusement, c'est à peu près au début des années 2000-2002 qu'il y a eu vraiment un développement des radars automatiques en France pour contrôler la vitesse, et la vitesse sur la route, en tout cas le nombre de morts, a drastiquement diminué à partir du moment où il y a eu les radars.
Mais tu as raison.
Je maintiens les aubergines, hein. J'ai vérifié. On les appelait les aubergines à partir de 74.
Ah oui, bah, j'ai les aubergines. Personne n'était né sur ce plateau.
Et ça c'est avant, et après, ça s'est appelé les pervenches. Mais c'était les aubergines. Donc,
merci Robert de nous apprendre tant de choses. On est avec, Pierre Chasseret, justement, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre.
Bonjour Estelle. Bonjour Rémi.
Salut Pierre.
Bonjour. Pierre Chasseret, ça va dans le bon sens, ces radars de covoiturage?
Non. On va finir par dégoûter complètement les gens de l'écologie.
Maintenant, c'est le but, de la voiture surtout.
Alors déjà qu'on avait dégoûté les Français de la sécurité routière justement avec des radars, on va commettre la même erreur avec des radars de covoiturage. Non, c'est stupide. Alors Rémi, bref parenthèse, je le redis, la courbe de l'accidentalité routière chute à partir de 2003-2004.
Mais c'est un autre débat.
Chute en 2002. Les radars, c'est 2003-2004. Voilà, c'est comme ça. Bien après. Donc là, on va avoir quoi? Un système de radar automatique qui va venir avec des caméras thermiques distinguer combien de personnes il y a dans votre voiture, parce que tous ceux qui disaient que pour Noël ils allaient s'offrir
une poupée gonflable,
non, ça va pas être possible, puisque il y a une caméra thermique qui va analyser à travers des vitres. Non, mais vous imaginez un petit peu le système, quoi.
Ouais.
Pour pouvoir verbaliser.
C'est une nouvelle technologie, Pierre, faut vivre avec son temps.
Oui, mais c'est plus de la technologie, c'est de la verbalisation, c'est de l'écologie punitive, c'est de la stupidité. Parce qu'en plus, quand on regarde quelles villes sont candidates pour mettre ces radars, bon, on retrouve toujours les mêmes.
Grenoble,
voilà.
Bordeaux,
Lyon.
Voilà.
Donc, on est toujours sur les mêmes. Donc, vous voyez bien, c'est pas une mesure qui est faite pour fluidifier le trafic. C'est une mesure qui est faite pour embêter les automobilistes, laisser une voie totalement vide, générer des bouchons sur les autres voies de circulation, dégoûter les Français de leur voiture. Et au final, il va falloir qu'on m'explique ce qu'il y a d'écologique dans le fait de créer des bouchons.
Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser dire ça, Pierre, parce que vous savez bien quand même que là, ça, c'est votre raisonnement. Mais en fait, pourquoi elles ont été créées, ces voies de covoiturage? Pour faire que les gens arrêtent d'utiliser leur véhicule pour aller à la boulangerie en étant tout seul. Parce que ça, c'est. Non mais, d'accord, mais c'est, vous savez bien que c'est pas admissible. La plupart des gens, ils sont seuls dans leur voiture et il y a un moment où, enfin moi la première hein, d'ailleurs, mais il y a un moment où effectivement on se dit que peut-être qu'on aurait pu faire des efforts et covoiturer. Et c'est sûr que si tout le monde était à deux dans sa voiture, ça réduirait la pollution.
C'est pas en ville, c'est sur autoroute, c'est sur les périphériques, c'est pas vraiment en ville.
Le covoiturage, ça fonctionne pas, Estelle, sur le trajet domicile-travail pour l'instant, je dis bien pour l'instant.
Oui.
On n'a pas trouvé de solution. Pourquoi ? Parce que la contrainte du covoiturage, c'est-à-dire attendre quelqu'un qui va monter dans la voiture, qui peut potentiellement être en retard, le devoir redéposer quelqu'un à un endroit précis, perdre du temps, ne vaut pas la chandelle en termes de rentabilité financière.
Mais on est d'accord.
Voilà. Si demain, on veut que le covoiturage domicile-travail fonctionne, et je vais vous donner une méthode toute simple, on autorise la rétribution. C'est-à-dire que si un employé gagne 200 euros par mois parce qu'il va covoiturer quelqu'un, il n'y aura même pas besoin de mettre des voies et des radars. Tout le monde va le faire. Enfin, en tout cas, une grande.
C'est vrai,
partie.
C'est malin.
L'incitation.
Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est malin. Je reçois un SMS, là, quelqu'un qui me dit on n'a qu'à inventer des poupées gonflables chauffantes. Pour les caméras thermiques. Voilà, c'est Jean-Philippe qui m'envoie ça. Rémi Barré, vous avez des messages.
Très bon message, notamment celui de Thierry sur Direct Studio. Les radars de covoiturage sont déjà déployé sur Lyon, c'est vrai, aux entrées de l'agglomération, sur les voies de gauche pour le moment, encore une restriction punitive. Mourad nous dit bonjour Estelle, à propos des radars de covoiturage, il y en a déjà d'installés au péage de Lançon de Provence, c'est vrai aussi dans les Bouches-du-Rhône et aux États-Unis ça existe depuis longtemps. Oui. Voilà,
arriver en France évidemment.
Ben oui, Aubergine, je confirme cette appellation plus caricaturale de la fameuse pervenche, nous dit Yannick.
Ah, mais il est né en quelle année Yannick?
Ben, je ne sais pas.
On est avec Eric qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Eric.
Bonjour à tous.
Eric, vous êtes plutôt pour alors ces voies de covoiturage? Ah bon, d'accord, j'ai mal compris. Ah bah très bien, alors allez-y.
Plus que 30, c'est surtout que je vois pas l'intérêt. Déjà, je vois pas l'intérêt de, comme l'a dit Pierre, d'envoyer le trafic sur deux autres voies et d'en supprimer une, ce qui va générer systématiquement plus de bouchons et donc plus de pollution.
Mais dégoûter les gens de leur voiture, c'est ça l'idée.
Non mais les gens ne peuvent pas être dégoûtés de leur voiture, ils n'ont pas de solution alternative pour le moment. Pour le moment, on les sanctionne sans leur donner de solution alternative. Donc c'est un système purement et simplement financier pour faire rentrer de l'argent. Parce que soit vous leur offrez une solution qui fonctionne, pas chère, propre, et on dit aux gens, bah, si vous ne l'apprenez pas, on vous sanctionne. Mais là, on les sanctionne avant de leur donner des solutions. C'est le monde à l'envers. On l'a déjà fait à de multiples reprises et on continue. Et on s'est rendu compte que c'est strictement pour rentrer de l'argent.
Oui, mais est-ce que vous, ça vous inciterait pas, par exemple, Eric, à covoiturer parce que justement, eh ben, le trafic il sera plus fluide pour vous, vous allez gagner du temps et puis vous allez peut-être moins polluer, quoi.
Mais non, parce qu'on a des horaires qui sont variables de nos jours. De nos jours, j'ai un rendez-vous, j'ai pas un rendez-vous, j'ai quelqu'un qui m'appelle au dernier moment. Aujourd'hui, j'ai mes enfants, mon fils, il y a une grève du clay, je suis obligé d'aller le chercher à midi alors que normalement c'est pas prévu. Je fais quoi si j'ai pas ma voiture?
Non, mais bien sûr, vous avez raison. Non, mais c'est vrai que c'est inextricable.
Non, mais c'est des belles idées faites dans des beaux salons. Mais c'est pas adapté à la vie réelle. La vie de tous les jours, c'est les gens, ils ont des imprévus. Les gens, ils ont des choses à faire. Le joueur, le soir en rentrant, il faut qu'ils aient cherché une bouteille de lait. Le choix.
Il restera les autres voies. Hein. C'est pas toutes les voies qui vont être réservées au covoiturage.
C'est ça. Il n'y a pas une seule voie.
Non, mais toutes les autres voies. Donc on va, c'est ce que je disais en préambule, on va donc renvoyer toute la circulation sur les autres voies.
Ça, exactement.
C'est pas faux. Donc on va créer plus de pollution.
Mais il y aura plus d'argent dans les caisses de l'État.
Mais voilà, il n'y a pas d'argument écologique. C'est juste un argument financier.
Merci Eric de nous avoir appelé, en tout cas au 32-16. Valérie est avec nous, elle nous appelle de Fontenay-sur-Cony dans l'Eure-et-Loire. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour l'équipe.
Vous allez bien Valérie?
Oui, bah écoutez, je rentre du travail, tout va très bien.
Vous rentrez du travail à 13h21?
Oui, parce que je commence à 3h du matin, je travaille à Rungis, donc à 100 km de chez moi.
Ah oui.
Donc je pars de chez moi, il est 2h du matin, j'habite dans un village où on est 300 et quelques habitants.
Oui.
Trouver un covoiturage, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, mais on va pas leur m'aider, quoi.
Oui. Non, mais là, évidemment, votre exemple, Valérie, est mal choisi. Enfin, pas vous, hein, bien sûr, mais c'est sûr que.
Il est mal choisi, mais j'ai pas envie de me prendre une amende malgré tout. J'ai rien fait de mal.
Il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit, hein.
Oui, mais enfin, à 2h du matin, Valérie, j'ai envie de vous dire, vous serez pas nombreux sur l'autoroute, donc vous n'avez pas à prendre la voie de covoiturage, vous en fichez.
Oui, mais après, quand je rentre, là, vous voyez, à cette heure-là, là. Bah, j'ai toujours personne avec moi, parce que j'ai personne qui travaille avec moi et qui travaille là où je travaille.
C'est vrai.
Je risque d'être éventuellement pénalisé, alors que bah, je me lève, moi, quand les gens dorment, et je rentre quand les gens sont en train de manger, peut-être.
Ça vous agace, ça, Valérie?
c'est pas que ça m'agace, c'est que tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui disait on est de plus en plus fliqués. Il y a un moment, je pense qu'il y a d'autres décisions à prendre.
Oui, c'est vrai.
Après peut-être motiver les gens pour le covoiturage, mais d'une autre façon, mais pas en pénalisant, parce que le problème c'est que quand on pénalise aujourd'hui en France, on a toujours des gens qui méritent, mais on a toujours des gens qui sont victimes et qui n'ont rien fait, quoi.
Mais ça c'est
l'assurance, on paye plus cher alors qu'on n'a pas eu d'action. Enfin, vous voyez, c'est dans le même système, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont pénalisés alors que.
Bah oui, c'est comme ça partout, hein. Ça c'est sûr.
Mais si jamais ils mettent ça en place et que j'ai pas d'amende, j'ai envie de vous dire, bah écoutez, tout va très bien. Mais après, je dis moi, mais on est voilà, travailler à Rungis, c'est à plusieurs kilomètres et à pas d'heure. Le matin, comme vous l'avez très bien dit, Estelle, on risque rien, mais c'est au retour, quoi.
Oui. C'est vrai. Après, malheureusement, vous serez dans les embouteillages et effectivement, faire 100 km dans les embouteillages et c'est compliqué, voilà, pour les gens comme Valérie. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Valérie. Pierre Chasseret. Mais décidément, vous n'avez pas l'oreille du gouvernement, Pierre. Je ne comprends pas. Vous pourriez pas leur dire que ça n'allait pas, cette idée?
Si, on a déjà tellement de sujets à se battre, hein, entre les zones à faible émission, le 110 sur autoroute et toutes ces bêtises, parce que je veux rester poli. Je pense qu'il va falloir arrêter, là, parce que c'est pas le moment d'en rajouter. Il va falloir que ces villes qui ont décidé de mener la vie dure aux automobilistes arrêtent de mener un combat purement idéologique et rentrent dans la vie des gens. Regardez ce qu'on entend là, quelqu'un qui part à 3h du mat, enfin, je veux dire, 3h du mat, qui va venir se faire flasher parce qu'il sera pas en covoiturage.
Donc, il roulera sur l'autre voie, Pierre.
Mais il pourra pas rouler, il y aura des embouteillages, on vous dit.
C'est de la stupidité de venir contrôler des gens qui n'ont pas d'autre option. Et puis, on parlait des médecins. En fait, le système du contrôle-sanction automatisé, c'est-à-dire un radar, c'est qu'il envoie d'abord la prune et ensuite vous devez la contester.
Comme s'ils avaient ça à faire.
Donc on va être d'accord avec
Il a contesté, mais vous devez faire le chèque pour montrer votre bonne foi.
Et on va être d'accord avec Pierre parce qu'à chaque fois on tombe d'accord sur ce type de sujet. Ce qu'il faut, c'est remettre en place une véritable police de la route en France.
Exactement.
Avec des policiers, des gendarmes sur le bord de la route et qui contrôlent et qui peuvent faire preuve de. Discernement. Exactement.
Oui. Et une nouvelle fois, on n'en a pas parlé. C'est aussi une politique pour faire que les gens de la périphérie des villes ne puissent plus entrer dans les villes. Parce que qui va être pénalisé, c'est pas la personne qui habite à Paris, elle prend pas l'autoroute,
on ajoute
il n'y a pas de problème.
Les zones à faible émission, plus ça.
Mais bien sûr, c'est pour dégoûter les banlieusards de venir dans les grandes villes. Voilà. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça.
Ça donne envie de passer le permis.
Mais ne le passez pas, Pierre. Bon, merci beaucoup, Pierre Chasseret.
Merci à tous.
On va voir si nos auditeurs sont d'accord avec vous, parce qu'on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Radar de covoiturage, est-ce que ça va trop loin?
Bon, c'est connu, les Français en général aiment le radar, en particulier les auditeurs d'RMC. Donc oui, ça va trop loin pour 90% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Pourquoi ne suis-je pas surprise? Dans un instant, on va parler du Covid, ça c'est pour Robert Sebag. Est-ce qu'il faut remettre le masque? On va se demander également, mais ça c'est un vrai débat de société, est-ce qu'il faut arrêter d'acheter des yaourts? Mais ça pollue les yaourts. Et vous vous rendez compte que les emballages individuels...
Il y a du polystyrène dans les
ça ne se recycle pas, ça j'ai appris ça aujourd'hui.
Il y a du polystyrène dans les...
Et puis, les animaux sont-ils devenus plus importants que les enfants? Sachez que 52% des Français préfèrent offrir un cadeau à leur animal plutôt qu'à leur progéniture. Oui, ah ben, je vous jure, c'est un sujet. Et vous saurez également quelles sont les discussions phares à l'arrière des VTC. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur le plateau d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT avec Rémi Barré, Pierre Rondeau, Anne-Sophie Saint-Père et Robert Sebag. Et tout de suite, c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures et on va tout de suite commencer avec un extrait des GG ce matin. Faut-il remettre le masque? Cela fait plusieurs mois que les autorités sanitaires réclament le retour du port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. Cette fois-ci, ils alertent sur une triple épidémie en cours, Covid, bronchiolite et grippe. Et pour Benoît qui témoignait tout à l'heure dans les GG, hors de question de remettre le masque.
À un moment donné, c'est bon, il faut arrêter les conneries. Ça fait deux ans qu'on nous casse les couilles avec le Covid.
On casse les pieds.
Ça nous casse les pieds. On infantilise les Français pour leur faire passer la pilule, alors que bon, ben clairement, c'est que l'État fait pas son taf. Il y a plus de soignants. Tout est en PLS et on dit oh, ben,
tout est en PLS. Vous avez dit ah j'adore.
Ah oui, ben oui, tout est en PLS et puis c'est la faute des Français qui mettent pas le masque.
Tu as compris, Didier ?
D'accord avec ça. Ce que je vais vous dire, moi, Benoît, c'est que à un moment donné, monter dans un transport où il y a une personne sur deux qui porte le masque. Avouez que c'est quelque chose de bizarre et c'est pas une règle claire, voilà, c'est tout.
On va continuer combien de temps
chaque année, donc
les
alors.
Français, on va continuer combien de temps
quand il y aura une
Français.
Je pense que ce discours vous agace, Robert Sebag.
Oui, parce que j'ai écouté effectivement ce témoignage. Moi, je suis là ici, je suis ici et nous sommes ici les médecins, pas pour donner des obligations. Je suis là pour dire quelle est la réalité aujourd'hui. La réalité, vous l'avez dit, il y a trois épidémies en ce moment. Trois épidémies respiratoires. Covid, on a atteint les 50 000 cas détectés. Oui. La réalité, non. Mais la réalité, elle est nettement supérieure.
Bien sûr.
Alors effectivement, il y a moins de cas graves. Sauf qu'à l'hôpital, on a dépassé les 1000. On était en dessous de 1000 en soins critiques. La grippe, on a été protégé pendant 2 ans. Il y avait des gestes barrières. On a un petit peu peur. C'est une souche H3N1, N2, qui est très contagieuse. Ça va encore, si vous voulez, monopoliser beaucoup de médecins et des lits de réanimation. Et puis en pédiatrie, on a la bronchiolite, virus respiratoire syncytial, qui touche aussi des personnes immunodéprimées et des personnes âgées pour lesquelles on n'a pas de traitement et qui nécessitent une réanimation. Donc le problème, c'est notre service hospitalier. Alors on dit effectivement, il y a moins de cas graves de Covid, mais il y a encore, je vous dis, on est entre 50 et 60 décès quotidiens liés au Covid. Je ne parle pas de la grippe. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut remettre l'obligation ? C'est trop tard. On fera pas marche arrière. Donc, c'est que les gens soient conscients de ce qu'il faut faire. Vacciner. On est très bas en taux de vaccination chez les personnes.
Moins de 7%.
Je sais. Et c'est les personnes de plus de 60 ans et n'en parlons pas, plus de 80. Sur la grippe, on est très bas. On a un vaccin contre la grippe.
Oui, mais ça, ils le savent. Excusez-moi, Robert, mais à un moment, les gens, ils veulent pas se faire vacciner, mais tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah oui,
problème,
on va pas les forcer.
Collectif, parce que si vous, demain, Estelle, vous avez un accident de voiture.
Je suis vaccinée.
Un accident de voiture. Vous avez besoin d'un lit de réanimation.
Là,
vous faites un accident vasculaire cérébral, etc. Donc, je veux dire, il faut simplement informer les gens et leur dire voilà où est le risque. Et puis je veux dire, c'est pas compliqué. On a un vaccin contre la grippe efficace, on a un vaccin, des nouveaux vaccins contre la Covid qui va empêcher les formes graves. Alors après on me dit ouais, mais de toute manière ça transmet. Oui, ça transmet, mais même un Covid léger, il peut devenir Covid long. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, sans parler du coût pour la sécurité sociale, c'est les Covid longs. Et ça dure des années.
Alors qu'on nous a dit que ça n'existait pas au départ,
non,
je vous rappelle.
On ne sait pas définir une entité pathologique. Ce qu'on remarque, ce que je vois en consultation, c'est des gens qui viennent, qui ont eu un Covid et qui continuent à être extrêmement fatigués, qui ont des problèmes de mémoire, des problèmes cognitifs, des douleurs musculaires, etc., etc. Alors on cherche. Parfois on trouve une raison, parfois on ne trouve pas. Il y a aussi un mal-être, il y a eu un choc psychologique. On revient sur les problèmes de la santé mentale, où on est très faible en France, bon, etc. Donc je veux dire, il ne faut pas minimiser les risques. Moi, je veux foutre la paix aux Français.
D'accord.
Mais quand on est dans un métro ou dans certains lieux clos, je crois que le bon sens, sans créer l'obligation, c'est de mettre un masque.
Et on rappelle qu'aujourd'hui,
De protéger les autres. Il y a un côté altruiste.
Et on rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'ordonnance pour aller en pharmacie, se faire vacciner contre la grippe, quel que soit nos âges. Alors qu'avant, il fallait aller chez le médecin, demander un vaccin, c'était très compliqué. Aujourd'hui, même vous avez 40 ans, vous pouvez vous faire vacciner dans n'importe quelle pharmacie contre la grippe, et c'est gratuit. Apolline Matin, ce matin, faut-il arrêter d'acheter des yaourts ? L'ONU se penche cette semaine sur la pollution de ces pots en plastique, dont 15 milliards sont consommés chaque année, rien qu'en France, composés de polystyrène. Ces pots ne sont quasiment pas recyclés. Clé pour des raisons techniques. Et pour Jimmy Pain, député Modem du Morbihan, très engagé sur cette question, c'est au consommateur de prendre ses responsabilités.
Ce polystyrène, on n'arrive pas à le repérer sur les chaînes de tri. Il faut vraiment tout faire pour l'écarter. Alors le mot boycott est un mot un petit peu fort, mais je crois que c'est au consommateur de prendre ses responsabilités. Les industriels s'adapteront toujours aux consommateurs.
Est-ce qu'il faut arrêter de manger des yaourts, Anne-Sophie Saint-Père ?
Moi, je trouve ça toujours un peu pénible qu'on remette la responsabilité sur le consommateur, parce qu'on n'est pas capable d'interdire des produits polluants, parce que ça met des années. Mais là, effectivement, ça va mettre des années. Donc, autant prendre nos responsabilités et choisir des yaourts avec des pots en carton ou en verre, ou des gros
des
pots
en carton,
ou avoir des yaourtières.
Il y en a.
Ah bon ?
Et pas uniquement en biocoop ou en magasin bio.
Non.
Il y a aussi dans les grandes surfaces.
Oui, il y a des
Par exemple, les Malo.
J'avoue qu'il y a Rondo qui est très écolo. Vous ne consommez que des yaourts en pot en carton ou en pot en verre?
Alors, sachez-le, oui. Je vais, alors, j'ai la chance d'habiter, donc plus à Paris, mais en région parisienne, mais en tout cas d'avoir une très grande offre de magasins et de grandes surfaces et des petites et moyennes surfaces. Donc, je peux me diversifier. Effectivement, dans le cas des yaourts, il m'arrive d'aller dans les magasins bio. Cop bio, Biocop et autres, et d'acheter des gros pots de yaourt, pas des pots de yaourt individuels, en carton, sans couvercle en plastique. Ça, c'est aussi un truc important. C'est dans les magasins bio, vous avez que des grands pots et non pas des pots individuels.
Ah non, mais c'est insupportable. Il y a des opercules, ce qui veut dire que si vous finissez pas votre grand pot tout de suite, eh ben en fait, il s'opère.
Alors, la technique, c'est ma mère qui m'a donné cette technique, c'est qu'elle a conservé plusieurs opercules en plastique et qu'elle les garde.
Ah oui.
Et pour recouvrir les pots qui ont été ouverts sans justement opercule en plastique.
Il y a le problème du verre.
Est-ce que ta mère peut nous filer des couvercles à nous tous?
Ah ben, je pense qu'il y en a chez elle, je pourrais rapporter après Noël.
Estelle, il y a le problème du verre. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un manque de verre. Vous savez que pour le vin, aujourd'hui, il y a moins de bouteilles parce que le verre, les entreprises qui fabriquent du verre, des objets en verre, des bouteilles, des pots de yaourt, ça demande une énergie. Il y en a qui ferment. Vous avez vu que Duralex a arrêté de produire.
Oui.
Et donc, je veux dire, si on pourra pas remplacer. Donc, il reste plus que le carton.
Alors, après, il reste une solution.
Non,
il faut l'accepter.
Je veux dire,
c'est vrai que les yaourts avec des pots en verre coûtent plus cher.
Ouais, mais là, Robert, justement, avec les pots en verre, il reste une solution et on peut
on
passer
garder,
par
remplir.
Non, non, fabriquer soi-même. Voilà, fabriquer soi-même. Ah, bah, c'est possible. Non,
mais
si on va aller jusque-là, je ne vais pas te l'imposer. Il y a des solutions alternatives. Le jusqu'au-boutisme, c'est fabriquer soi-même ses pots de yaourt. C'est possible.
Enfin, Robert, excusez-moi, j'ai pas que ça à faire de rentrer chez moi et d'aller me fabriquer mes yaourts.
Amusant,
mais dire,
c'est amusant
quand t'as des gosses. Mais enfin, bon, je veux dire, franchement. Et tu connais jamais la date de péremption. Moi, je suis
C'est vrai. C'est pour ça que la dernière solution, c'est celle-ci. Mais avant, il y a les pots, les fameux gros pots en carton. Bon. Avec ma mère qui pourra t'offrir des.
Je suis sûr que c'est plus cher. Je vais aller vérifier dans mon supermarché, Pierre. Donc vous
aussi, prix consommez
que des pots en carton et pots en verre.
Oui, ça se passe très facilement. Alors plutôt pots en carton parce que pots en verre, j'en trouve moins. Mais oui, ensuite je consomme pas non plus énormément de yaourt, mais ça se trouve en supermarché. Effectivement, c'est plus écolo.
Vous avez tort. C'est bon pour le microbiote, les yaourts.
Exactement. Apolline Matin, ce matin, quelles sont les discussions phares à l'arrière des VTC? Un sondage a été réalisé auprès des chauffeurs dans toute la France pour savoir quels étaient les sujets les plus discutés entre les clients et les chauffeurs. Et c'est Charles Magnin qui nous a tout dévoilé ce matin sur cette étude.
Notons d'abord que 83% des chauffeurs déclarent que les passagers se confient pendant une course. Et se confier, c'est le bon mot, puisque 39% des passagers ont déjà partagé un souci personnel ou professionnel directement avec le chauffeur. Mais le sujet de discussion numéro un dans un Uber, c'est l'actualité. C'est un peu comme sur RMC. Et là, on a le palmarès des sujets qui ont fait le plus causer en 2022 dans les VTC. Numéro un. Emmanuel, l'inflation. Mais oui, je me tourne vers Emmanuel.
Ah ouais, j'allais dire le foot.
Non, justement, l'inflation numéro un. En numéro deux, les grèves et les pénuries de carburant. Et la Coupe du Monde n'est que troisième, mais il faut dire qu'elle est arrivée tard dans l'année, cette Coupe du Monde. Conclusion de ce sondage, les chauffeurs de VTC arrivent désormais en deuxième position des professions auxquelles on se confie le plus. Ils sont toujours derrière les médecins, mais ça y est, ils ont dépassé les coiffeurs au rayon, au classement des professions auprès desquelles on bavarde.
Moi, je peux vous dire qu'on ne me parle que de foot dans les VTC. On donne mon avis sur
santé.
Tout.
Moi, santé.
Oui, bah toi, oui.
Moi, je fais des consultations pour toute la famille du chauffeur.
C'est vrai, dans les VTC?
Non, mais il me demande, ah, mais de vous. Alors, vous faites.
Et là, il s'arrête, il va te montrer son grain de beauté.
Alors, le Covid, on en est où? Alors, je recommence. Hein, et après, vous savez, ma fille, elle a ça, et mon fils, il a ça. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que son médecin. Vous connaissez un médecin? Alors, moi, j'en peux.
Il faudrait quand même.
Mettez un masque qu'on vous reconnaisse.
Sur l'application Blablacar, on peut choisir.
Il vous demande, vous faites quoi? Vous êtes médecin? Ah,
dites, je suis chauffagiste.
Mais non, mais sur l'application Blablacar, on peut mettre l'option passager silencieux.
C'est vrai?
Ouais. Alors, j'aimerais bien que sur d'autres applications de VTC, il y a aussi l'option passager silencieux.
Oh, mais c'est sympa de discuter avec les chauffeurs VTC.
Parfois, à 3h du mat, c'est chiant. Franchement, moi, il m'est arrivé à 3h du mat,
moi,
en cette soirée, légèrement
gens,
alcoolisé. Il me reconnaît à Pierre Rondeau, le foot. Il est en train de parler de foot. Je suis là,
qui est légèrement alcoolisé, vous, le chauffeur?
Bah, à 3h du mat, en rentrant de soirée, excusez-moi, pardon, je prends un VTC parce que je ne veux pas rentrer à vélo, parce que je suis légèrement alcoolisé.
Et vous ne pouvez pas discuter quand vous êtes légèrement alcoolisé, vous? Au contraire, non.
Quelle image ça donne d'Estelle Midi.
Vous êtes d'un snobisme.
On apprend plein de choses avec les
chauffeurs de VTC.
Mais bien sûr.
On apprend plein de choses.
Mais parce que
franchement, ils vous parlent. Vous découvrez des problèmes, des problématiques qu'on ne connaissait pas. Non, moi je trouve que.
Sur le prix de l'essence, c'est les premiers à m'avoir alerté, par exemple. Mais bien sûr. Mais
je serais le premier à mettre passager silencieux.
Ah, mais toi, ça y est. Là, dès que les gens ne sont pas économistes ou machin, tu ne discutes plus avec eux.
Pas du tout. J'ai juste pas envie de discuter. Moi, je prends mon téléphone, je baisse la tête, comme ça, ils me voient que j'ai la tête baissée.
Parce qu'en plus, c'est désagréable.
Non, je parle pas.
C'est vrai, ça dépend.
Anne-Sophie, vous êtes sympa, vous, au moins.
Ah oui, moi, je parle. Bah, en fait, les rares fois où je prends des VTC, c'est pour revenir sur des émissions comme ça. Donc, souvent, je parle des sujets de l'émission. Voilà. C'est assez intéressant.
Ah, elle fait la promotion de l'émission.
Ben voilà. Oui.
C'est bien, ça.
Et puis, moi, j'ai appris, par exemple, qu'on était diffusé la nuit grâce au chauffeur VTC.
Voilà.
Parce que, un taxi me dit, je vous écoute la nuit. Je dis, à mon avis, c'est pas moi. Il me dit, mais si, vous êtes rediffusé. Donc, en plus, je passais un peu pour une conne, parce que j'étais même pas au courant. Donc, je dis, ah oui, écoutez, super.
Et tu sais qu'on est noté sur les applications.
Oui, je sais. Et j'ai 4,62.
Bizarrement, moi aussi, j'ai une bonne note qui est un peu faible.
Non, et moi, je suis sympa, je mets les 5 partout.
4,62
hein. Ouais, bah.
Ah ouais. Moi, je suis à 4,58, un truc comme ça.
Alors que vous êtes désagréable, ouais. c'est vraiment pas payé. on va terminer avec un extrait des GG. Les animaux sont-ils devenus plus importants que les enfants? 52% des Français déclarent vouloir d'abord offrir un cadeau à leur animal plutôt qu'à leur enfant. Et ça ne choque absolument pas l'avocate Sarah Salman des GG.
Moi, j'offre de beaux cadeaux tous les ans. Il y a deux ans, j'ai offert à mon chihuahua qui s'appelle Triomphe. J'ai offert une gamelle Karl Lagerfeld en cuir.
Non.
C'est vrai.
Vous voulez la photo?
On veut bien.
Tu vas la donner et puis on va la prendre.
Oui, on va la prendre.
Donc, j'ai offert cette gamelle Lagerfeld. J'offre souvent de très, très beaux cadeaux. Alors, je le rappelle pour nos.
De plus beaux cadeaux à ton chien qu'à tes amis?
Largement.
Mais largement. Il passe avant tous les autres.
Bien sûr.
Pierre Rondeau, vous avez un chat que vous chérissez. Est-ce que vous lui offrez des cadeaux de Noël?
Tous les jours, je lui offre des cadeaux.
Non, mais en vrai.
Ah non, mais non, à Noël, non, bien sûr que non. Alors, ce qui est marrant, c'est que mon chat.
Vous croyez qu'il ne sait pas que c'est Noël?
Ce qui est intéressant, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Moi, mon chat n'en a strictement rien à faire des cadeaux. Mais rien à faire. Je lui offre une baballe, je lui offre un lit, je lui offre un petit jouet.
Une balle, vous voulez dire?
Oui, enfin, un petit jouet pour animaux. Elle s'en fout littéralement. Par contre, elle va jouer avec un tesson de bouteille, avec une.
Oh, un tesson de bouteille, oui, mais elle devrait jouer avec des couteaux.
Non, mais oui, mais elle joue avec n'importe quoi. Elle joue avec n'importe quoi.
Mais pourquoi y a-t-il des tessons de bouteille chez toi?
Je comprends pas.
C'est après. Je rentre à 3h du matin à l'Elysée. En VTC. Je casse la bouteille.
Tu as une baballe. Et voilà. C'est le drame.
Qu'est-ce qu'il y a, Robert?
Non, moi, je suis affolé parce que c'est de débat, quoi. Je veux dire, moi, j'ai un petit chat que j'adore, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est de faire des cadeaux? Alors, vous arrivez du Liban, le débat, c'est est-ce qu'il faut faire des. On fait plus de cadeaux à ses animaux
vous
qu'à ses enfants.
On n'arrive pas du Liban chaque jour.
Non, mais attendez, je veux dire, je sais pas. Enfin, moi, j'entends des trucs de la guerre faite à son chat. Mais alors, mais quelle est la prise de conscience des animaux par rapport à Noël ou aux dates? Je suis contre la violence animale, on s'occupe bien de son animal, mais qu'est-ce que c'est, les cadeaux aux animaux, plus que des enfants ou à son épouse? Enfin, c'est une histoire de fou, quoi.
Calmez-vous, Robert.
Bon, bah.
Je me calme, c'est mauvais. Je veux dire,
c'est mauvais pour vos artères.
Tu sais qu'en moyenne, les Français dépensent plus de 150 euros par mois à leurs animaux de compagnie.
Hein? Non, mais que 150 euros par mois,
les nourrir, les nettoyer, les vacciner, je suis d'accord. Ouais. Mais le cadeau, la notion de cadeau à des animaux.
Oui, bien sûr. Dans un instant, on parlera conso avec Stéphane Pedrazzi. Ce sera la minute conso et on va parler du tarif des JO. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h49 dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. C'est le moment de parler conso avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et aujourd'hui, dans cette minute conso, Stéphane, on parle des billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Enfin, ça y est, vous allez pouvoir vous préinscrire à partir de jeudi.
Oui, à condition d'avoir compris le mode d'emploi.
C'est un peu compliqué.
Donc, tu vas voir, c'est un jeu de piste. Je vais tenter d'expliquer. Alors, tu peux effectivement t'inscrire à partir du 1er décembre, 11h, sur le site ticketsaupluriel.paris2024.org. L'inscription permettra, si vous êtes tiré au sort, d'être prioritaire lors de la première vague de réservation qui aura lieu du 15 février au 15 mars de l'année prochaine. Les 4 premiers jours de la billetterie seront réservés aux personnes prioritaires. C'est là évidemment qu'il y aura le plus de choix. L'objectif, c'est d'éviter que ce soit les plus rapides qui aient accès aux meilleures places. Qu'a expliqué le comité d'organisation des JO, c'est que le système de tirage au sort, c'est plus égalitaire, même si évidemment c'est un peu plus compliqué pour acheter des places.
Et est-ce qu'on sait combien de personnes vont être tirées au sort?
Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, mais c'est de l'ordre d'1 million de personnes qui devraient être tirées au sort. Petite astuce.
D'avoir du boulot, Lucie.
Petite astuce. Si vous êtes membre du club Paris 2024, vous aurez, paraît-il, plus de chances d'être tiré au sort. Donc, pensez-y. C'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la billetterie. Donc, la même adresse que je viens de vous donner. Vous allez me dire 1 million de personnes, ça fait beaucoup. Mais par rapport au nombre de places qui vont être commercialisées, c'est assez limité. 10 millions de billets vont être mis en vente pour les épreuves des JO et 3 millions 400 000 pour les épreuves des Jeux paralympiques.
Une nouveauté pour ces JO, Stéphane, les places vont être vendues par pack.
Ouais, pour la première vague de réservation, celle qui aura lieu en février. février, mars, les places seront uniquement vendues par pack. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas acheter des places pour une seule épreuve olympique. Il faudra impérativement acheter un pack de 3 sessions. Alors, par exemple, athlétisme, natation ou escrime, mais ça pourra aussi, ça pourra aussi être 3 sessions d'un même sport avec une limite de 6 billets par session et 30 billets au maximum si vous achetez plusieurs packs. Là, en théorie, vous êtes perdu, vous n'avez rien compris. C'est normal. Sachez que le Parisien, quand même, le journal, ce matin, a consacré une double page pour tenter d'expliquer le fonctionnement de la billetterie. Vous allez réserver des places.
Excusez-moi, mais pourquoi je suis obligé d'acheter un pack si j'ai envie juste d'aller voir la finale du 100 mètres? Pourquoi je serais obligé d'acheter des places pour de l'escrime ou du pentathlon?
Alors, le comité d'organisation dit que ça permettra de fluidifier le processus. En réalité, je crois que ça va surtout attirer du monde, l'objectif en tout cas, vers les disciplines qui sont moins populaires. C'est-à-dire qu'on sait très bien que certaines disciplines sont très demandées, l'athlétisme, la natation, les matchs de basket, et d'autres disciplines sont moins populaires. Donc, en proposant des packs, ça permettra, si vous êtes un petit peu curieux, d'aller découvrir, je ne sais pas, l'escrime ou des sports où vous ne serez pas allé spontanément.
Oui, mais sauf que, par exemple, si je suis dingue de pentathlon et que je suis pas tiré au sort, et ben ça se trouve quand je vais vouloir, moi qui suis dingue de pentathlon, vouloir avoir des places pour le pentathlon, ben il y en aura plus parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire.
Il y aura le marché secondaire.
Des places dans les plaques. Mais bien sûr, je vais aller acheter des places de pentathlon au marché noir. Mais bien sûr,
il va y avoir des systèmes de revente comme il existe sur les matchs de football. Des abonnés qui revendent effectivement.
Ouais, sauf que les billets seront entièrement dématérialisés, donc ça sera quand même difficile à revendre.
Enfin, ça a l'air quand même super compliqué comme organisation. On pouvait faire simple et donc on a fait compliqué.
Ouais, c'est un peu une usine à gaz. Il y a les packs, il y a les tirages au sort et il y a 3 périodes pour acheter des billets. Donc du 15 février au 15 mars de l'année prochaine, il y aura une deuxième session où là, il sera possible d'acheter des billets à l'unité pour un seul sport. Voilà. Ce sera en mai 2023, mais attention, les meilleures places seront déjà parties puisqu'elles auront été vendues lors de la première session où on ne pourra acheter que des packs. Et puis il y aura une troisième session là encore pour des packs à l'unité, des billets
des
à l'unité. Voilà, ce sera fin 2023.
Et les prix.
Les tarifs. Alors on y vient. Bah oui. Alors ça c'est une volonté des organisateurs. Les jeux doivent être abordables, accessibles à tous. Et je sens que Pierre a envie de dire un mot là-dessus. La moitié des billets sera vendue à moins de 50 euros pour les Jeux Olympiques et à moins de 25 euros pour les Jeux Paralympiques. La volonté donc du comité d'organisation, c'est de vraiment d'attirer tout le monde. Sauf que les packs, le pack le moins cher coûtera 72 euros, donc 24 euros par billet, mais peut-être des places où tu n'iras pas. Donc ça veut dire que tu vas devoir débourser 72 euros de toute façon pour la première vague de réservation. Il y aura aussi des billets un petit peu moins accessibles, je ne sais pas si ça va intéresser Pierre. 1150 euros pour 3 sessions, c'est le pack le plus cher.
Ouais, ben ça voilà. Oui, mais là-dessus tu peux avoir la finale du basket, la finale du 100 mètres nage-libre et la finale du 100 mètres en athlée.
Perdu, parce que là ça ne concerne ce que je viens de te dire que 80% des billets, les 20% de places les plus prestigieuses, c'est-à-dire cérémonie d'ouverture, finale, demi-finale, etc.
Mais cérémonie d'ouverture, elle est sur la scène.
Oui, mais elle sera pas forcément gratuite. Il y a des gradins.
Des gradins
sur les ponts notamment. Je vais aller payer pour aller voir une cérémonie sur la scène.
En tout cas, si tu veux aller voir la finale de basket, ça ne fait pas partie des processus de réservation que je viens de tenter d'expliquer. Les 20% de places les plus prestigieuses seront vendues à part. Bonne chance, quand même.
Est-ce que vous comprenez qu'on n'a rien compris?
Ben oui. Mais c'était aussi l'objectif. On a quand même le chic pour inventer des usines à gaz. Mais
c'est là qu'on se rend compte que les JO auront lieu en France.
Oui,
voilà, c'est bien.
Oui,
c'est bien.
Précision quand même, les règles s'appliqueront à tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui, en Australie, en Angleterre, ou je ne sais où, voudront acheter des places, ils seront soumis aux mêmes
et
règles.
Et on mettra Made in France.
Voilà, bien sûr. C'est les gens n'auront pas besoin, ils auront compris tout de suite. Bon. Et surtout, on leur montrera nos mascottes. Et alors là, ça va être extraordinaire.
De toute façon, il y aura bien des grèves.
Les mascottes.
Petite question, est-ce que tout sera vendu en ligne?
Oui, pour éviter le risque de fraude, ça sera dématérialisé. Alors, un petit chiffre quand même, au-delà de la grande. Il y a un enjeu très très important quand même, puisque un tiers du budget doit être couvert par la billetterie, c'est-à-dire 1,2 milliard d'euros. Si on respecte le budget, ça va être
bien. Et vous parlez du budget initial, pas celui qui est en cours.
C'est vrai qu'il a déjà été révisé.
Sinon, c'est pas grave, on perd avec nos impôts.
Oui, bah, comme d'habitude.
Ça a déjà été budgété.
Heureusement, la taxe foncière monte à Paris.
Voilà. Et les deux roues payent leur stationnement.
Merci beaucoup. Stéphane Pedrazzi, on parle de quoi demain?
Demain, ça sera Paul.
Ah ben oui, on lui demandera à lui.
Oui.
De quoi on parle demain. Merci beaucoup. Stéphane Pedrazzi, on vous retrouve jeudi dans la Minute Conso. Dans un instant, on parle du télétravail. Vous ne télétravaillez pas, Stéphane?
Je pourrais faire ma chronique à distance, mais je crois que tu ne seras pas d'accord.
Ben non, je ne serai pas d'accord. Moi non plus, je ne télétravaille pas. Mais en tout cas, le télétravail perd du terrain en France. Il y a de moins en moins de possibilités de télétravailler. Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce que c'est la fin du télétravail? Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous justement si vous télétravaillez et que vous ne voulez plus retourner au bureau. On vous attend au 3216 ou sur l'application RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.